Randonnez un jour ou partez pour toujours avec Columbia. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans. Pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner le podcast Les Baladeurs.
Depuis des années, Mehdi Debra marche. Paris-Marseille, Paris-Lisbonne, Paris-Venise, Paris-Copenhague, autant de kilomètres à pied qui lui permettent d'échapper au quotidien et, selon ses mots, de devenir une meilleure version de lui-même. En chemin, il en profite pour récolter des fonds pour des associations et pour partager les plaisirs et galères du voyage en temps réel avec des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Un public qu'il veut inspirer et à qui il veut transmettre sa passion du voyage à pied. En 2022, suite au décès de son père, il se lance un grand défi, faire Paris-Alger à pied, soit 4000 km à travers la France, la Suisse, l'Italie, la Sicile et la Tunisie, pour aller retrouver son grand-père dans la banlieue d'Alger et surtout faire un pas vers le deuil.
Alors ma première longue marche, c'était en 2015. J'ai fait Paris-Marseille à pied. Je pense qu'il y avait un petit ras-le-bol de Paris. Et il y avait aussi l'envie de me challenger. J'étais à un moment de ma vie où, scolairement parlant, j'avais pas trop réussi. Donc j'avais besoin de m'accomplir dans autre chose. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter Paris-Marseille à pied. Je suis parti juste après à Venise. Venise, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait Paris-Venise à pied, après Paris-Saint-Sébastien, qui de base devait être Paris-Lisbonne à pied, mais c'est la seule marche que j'ai abandonnée en cours de route, parce que j'étais pas préparé au froid, c'était la première fois que je partais dans le froid. Fatigue générale, beaucoup de mes aventures tout au long de ma marche, ça a fait que à Saint-Sébastien, ça a craqué, et je me suis dit, allez, je rentre à la maison. Ensuite, Paris-Saint-Malo, Paris-Copenhague, et Paris-Alger. Mon déclic pour partir de Paris à Alger, ça a été le décès de mon père. J'avais prévu de faire ce voyage-là, mais je me suis dit que j'allais me consacrer à ma vie professionnelle parce que à chaque fois que je partais marcher, je perdais mon emploi et je devais tout recommencer. C'est un plaisir pour moi de marcher, mais en même temps, il faut pouvoir gagner sa vie. Donc j'avais décidé de plus marcher, puis il y a eu le décès de mon père qui a été assez soudain et je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, on n'a pas la garantie de pouvoir vivre même l'heure qui suit, quoi. On se projette tout le temps, mais finalement, faut pouvoir vivre ces expériences-là. Donc je me suis dit, allez, je vais marcher de Paris à Alger. En plus, ça a du sens parce que mon père, il est d'Alger. Et je me suis dit que j'allais aussi récolter des fonds pour une association, pour la construction d'un château d'eau qui serait en son nom. En fait, ce qu'on peut faire pour un mort dans la religion musulmane, c'est qu'on peut faire des prières pour lui, ou on peut faire ce qu'on appelle une sadaqa jariya, ça s'appelle une aumône continue. Et une des façons de rendre hommage, c'est d'acheter de l'eau et de donner de l'eau à des gens qui en ont besoin. Et donc moi, à travers ce château d'eau, j'ai voulu faire ce qu'on appelle une aumône continue. Donc à chaque fois que quelqu'un, que ce soit un humain ou même des oiseaux, vont boire de cette eau-là, il aura donc des bonnes actions en son nom. La relation avec mon père, c'est... J'aurais du mal à la qualifier, mais c'est lui qui m'a inculqué les valeurs du sport, déjà. Quand j'étais petit, j'étais un peu bouboule, donc il aimait bien me faire marcher. c'est lui qui me faisait tout le temps marcher. J'ai ce souvenir-là qui me faisait, aller partout. On allait à l'opéra, il me promenait tout le temps depuis tout petit. Et j'ai même cette anecdote-là. Quand je lui ai dit que voilà, j'avais fait Paris-Marseille à pied à l'époque, il me disait que c'était grâce à lui. Mon plan avant de partir, c'était 136 jours. Je me suis dit, je vais mettre 136 jours. Après, par expérience, je sais qu'on prend toujours un peu plus de temps quand on marche. Je ne voulais pas faire une course non plus. J'avais prévu un total de 4000 km. Donc, j'avais prévu de rejoindre la Via Francigena, ce chemin de pèlerinage qui a été emprunté par l'archevêque de Canterbury au 9e siècle pour rejoindre le pape. Donc, j'avais prévu de prendre ce chemin-là, le rejoindre quelque part en France, aller jusque Rome et de Rome faire encore un petit bout de la Via Francigena du Sud, et ensuite la quitter pour aller à Palerme. Et ensuite de Palerme, je prends le bateau jusqu'à Tunis, et de Tunis, je marche à pied jusqu'à Alger. Donc tout ça, 136 jours. Avant de partir, je me sens un petit peu coupable aussi, parce que je laisse ma mère seule. Je me dis que bon, elle a déjà perdu son mari, et puis c'est moi qui pars pour quand même beaucoup de temps. Je me demande si c'est pas un petit peu égoïste aussi. Je sens que je dois partir, je sens que je dois le faire. Ma mère, elle me fait confiance. On est au moment du départ, le 5 mai 2022, et j'avais mis tous mes appareils électroniques à charger. Je devais partir à 6h du matin, mais je me réveille à 10h. Donc, à ce moment-là, je me dis que peut-être qu'il ne faut pas que je parte aujourd'hui, mais j'aime beaucoup partir le lundi. Donc je me dis, allez, c'est parti, je pars lundi, je prends mes affaires, j'embrasse ma mère et je décide de partir. Mon départ, c'est jamais de Paris. Donc je prends les transports en commun pour partir à la fin de l'Île-de-France. Donc je fais mon départ de Melun et je me souviens que je prends mon support du téléphone, je l'accroche à un abribus et je fais la vidéo où j'annonce mon départ. Donc je bégaye une fois, je recommence la vidéo 10 fois, tout le monde me regarde à l'arrêt du bus. Et je me sens un peu bizarre parce que je me dis que là les gens ils sont en train d'entendre un gars qui dit qu'il va marcher jusqu'en Algérie depuis la gare de Melun. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu irréel ce que je suis en train de faire et de dire. Je finis la vidéo, je la poste et je pars marcher.
Est-ce que c'est une heure pour décoller? Il est 11h. Bon, c'est parti tout à pied. La prochaine fois que je prends le bateau, ce sera en Sicile.
C'est toujours difficile, je trouve, de trouver l'équilibre entre le fait de vivre son aventure et partager sur les réseaux sociaux. Mais heureusement que Paris-Venise, Paris-Saint-Sébastien, Paris-Saint-Malo et Paris-Copenhague, ça a été un entraînement pour moi. Donc là, je me suis dit que j'allais vivre l'aventure avant tout pour moi, mais aussi qu'il fallait que je sois plus actif. Je suis parti de la marche, il me semble, sur Instagram avec 8000 abonnés. Et sur TikTok, j'avais créé un TikTok juste avant la marche et j'avais 30 000 abonnés. Juste à l'annonce du projet, il y a eu beaucoup de gens qui se sont abonnés à moi. Quand je commence à marcher, je suis très excité. Je me dis, tu vas au bled à pied. C'est inexplicable comme sensation. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça, de la gare de Melun. Je me dis, j'ai tellement de chemin à faire. Je me dis, je vais passer par la Suisse, par l'Italie, par la Tunisie, par l'Algérie. Mais j'ai cette image-là de mon grand-père en tête. Mon grand-père, il n'est jamais venu en France. Donc, il n'est pas venu à l'enterrement. De base, je devais lui faire une surprise. Il ne savait pas que je marchais à pied. J'avais prévenu la famille de rien lui dire. Au début de l'aventure, je suis équipé d'un sac 50 litres. Dedans, il y a ma tente, mon sac de couchage, ma popote, mon panneau solaire pour que je puisse être autonome en électricité. C'est à peu près tout. Après, il y a des vêtements, voilà. Pas beaucoup de rechange, hein. 3 t-shirts, 3 caleçons, 3 paires de chaussettes, un pantalon, un petit short. À ce moment-là, j'ai le même panneau que j'utilise comme d'habitude. Tout en haut, il y a écrit Paris-Alger à pied, 4000 km avec mes réseaux sociaux. Et je l'ai accroché sur mon sac à dos. J'ai remarqué que c'était utile pour parler à des gens, en fait. J'ai remarqué que souvent, ça éveille la curiosité des gens. C'est un peu normal quand on voit quelqu'un qui marche de Paris à Alger ou peu importe, de Paris à Lisbonne à pied. On se demande pourquoi. Au bout de 4 jours, j'arrive à Troyes. Encore beaucoup d'engouement, c'est une plus grande ville, donc il y a plus de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. La cagnotte, elle augmente, mon nombre d'abonnés aussi, et le nombre de personnes qui viennent m'aider ou me demander juste si j'ai besoin de quelque chose ou qui viennent me voir pour me donner des mots d'encouragement, il y en a de plus en plus.
J'allais descendre les escaliers, là, à une seconde près, je les aurais ratés. Ils m'ont ramené de quoi manger et un petit mot. Accroche-toi, mon ami, tu peux le faire. Myriana, ça fait trop plaisir.
Le second checkpoint après 3, c'est Besançon. Je continue de marcher, il y a toujours autant de bienveillance, les gens m'aident. Et c'est, il me semble, pendant mon 11e jour que je rejoins la Via Francigena. Dès le 11e jour, je commence à avoir des chemins de randonnée qui me facilitent la marche et qui me mettent de meilleure humeur. C'est toujours mieux que marcher sur les départementales ou les nationales. Donc je rencontre la Via Francigena qui me fait passer par Besançon, non loin de la Suisse. Et ça représentait une nouvelle étape. Donc mon premier changement de pays pendant cette aventure. Je m'étais promis de retourner en Suisse. Je l'avais déjà fait une fois à pied. Et là, je rejoins le lac Léman. C'est magnifique. Les chemins de randonnée, c'est magnifique. Je plante ma tente une fois au bord du lac Léman. Je me réveille le matin. Je pique une petite tête dans le lac. Et je continue ma route jusqu'à un gros morceau de la Suisse. Et le gros morceau, c'est le col du Saint-Bernard, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dénivelé, où j'espère même rencontrer de la neige éternelle pour le kiff. Il y a le lac gelé tout au sommet du col. À quelques mètres, il y a l'Italie. Donc je passe de la Suisse à l'Italie. Et magnifique sensation. Je prends une petite vidéo. Une vidéo mémorable, parce que bon, j'étais à ce moment-là, je suis en roue libre. Je suis trop content. C'est une nouvelle étape, mais une des plus grosses étapes, parce que je sais que l'Italie, c'est long. Faire toute la botte du nord jusqu'à la pointe à Palerme, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais à ce moment-là, je suis très content.
Regardez où je suis. Là, je suis encore en Suisse. Mais là, le 30e jour de l'aventure, je suis en Italie. C'est bon.
Ma routine sur une journée, disons classique, c'est je me réveille à l'heure que je veux. Ensuite, je me fais à manger ou pas. Je sais pas s'il y a vraiment une journée classique. C'est ça qui est bien, c'est de pouvoir faire au gré de ses envies. Je me lève, je marche, je dis bonjour à tout le monde pour créer le contact. Pour voir si il peut y avoir potentiellement des histoires, des choses que je peux apprendre. Tous les jours pendant la marche, je prie et j'ai tous les jours une prière pour mon père. Donc je pense énormément à lui. J'aime faire un petit live dans la journée, selon mes envies encore une fois ou pas. Le soir souvent, je suis dans ma tente, je m'occupe de montage vidéo. Ce que j'aime bien faire moi, c'est faire à manger en live. Donc je cuisine en live. J'aime aussi faire des petits dates, donc des rendez-vous avec les gens qui suivent l'aventure. Donc généralement, quand je mange au resto, je prends mon téléphone, je le mets en face de moi et on fait ça avec les gens qui me suivent. J'appelle ma mère une fois par jour pour lui raconter les coulisses, pour la rassurer et pour l'écouter aussi, tout simplement. Par contre, c'est vrai que même si j'ai pas, disons, de routine, j'ai des objectifs. Je me fixe des objectifs au préalable et c'est ça qui me permet d'avancer. J'ai essayé de marcher sans réellement avoir d'objectif et c'est plus difficile de se dire bon, aujourd'hui je fais 30 km et je sais pas où est-ce que je vais. Non. J'ai besoin d'avoir cet endroit-là en vue, l'imaginer, parfois ça m'aide. Au bout d'un mois, physiquement, je suis KO. J'ai mal aux jambes, j'ai mal à tout le corps. Mais ça va, le mental il va bien, parce qu'à ce moment-là, au bout du 30e jour, il y a déjà le château d'eau qui a été inauguré. En 30 jours, c'est 10 000 euros, plus de 10 000 euros qui arrivent à être collectés pour l'association. En 136 jours, je pensais même pas les collecter, c'est magique. Je peux que avoir la pêche, je communique du coup avec l'association, ils me disent qu'on peut lancer la construction peut-être d'un deuxième château d'eau. Donc ça me remotive encore plus. Finalement, même si mon physique à ce moment-là, j'ai mal, mon moral, il va bien. Je continue de marcher et je me retrouve à un moment face à une rivière avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de courant. J'arrive pas à évaluer le fond de cette rivière-là. Donc j'essaie dans un premier temps de mettre le sac sur ma tête et d'avancer. J'avance, mais le courant, il est beaucoup trop violent. Je manque de tomber une première fois. Et je décide de faire demi-tour. Donc j'ai deux solutions qui s'offrent à moi à ce moment-là. Soit je traverse la rivière à la nage, soit je dois faire un détour d'environ 4 heures. Je décide de faire ce passage-là à la nage. J'avais des sacs poubelles avec moi, j'avais des sacs étanches. Donc je divise mon sac en deux petits sacs étanches et je fais un premier aller-retour qui m'épuise totalement. Et ensuite je me dis, bon, allez, t'en as un dernier à faire. Ce que je décide de faire, c'est de prendre le deuxième sac et de laisser un peu d'air pour pouvoir faire des bouées au cas où le courant m'emporte. Donc je le ferme d'une certaine manière à laisser de l'air à l'intérieur et je traverse une deuxième fois cette rivière-là. Le deuxième passage m'épuise totalement. Je longe une espèce de côte pleine de pierres pendant à peu près 15 minutes. Donc ça me fait super mal aux chevilles. Je réussis à sortir de cet endroit-là et complètement épuisé, je m'assois à côté d'une maison pendant environ 20 minutes. Il y a un monsieur qui se met à sortir de la maison, qui me regarde, qui me dit « ciao ». Il retourne chez lui. Moi, je suis toujours épuisé, trempé jusqu'aux pieds. Et là, c'est cette fois sa femme qui sort et qui me dit de rentrer chez elle. Donc, je prends mes affaires, je rentre chez eux, elle me donne une serviette et elle me dit d'aller me doucher. Je suis trop content. Et au moment où je sors, je vois qu'ils ont dressé une table et qu'ils m'invitent à manger chez eux. Je sens que la dame, elle est un petit peu triste. Je sens quelque chose chez cette dame-là. La discussion suit son cours et elle me dit ensuite que son père était mort dans la rivière que j'ai traversée. Un mélange de tristesse et de honte à ce moment-là parce que je me suis dit que j'aurais pu éviter, c'était dangereux. Et de l'autre côté, bah, je me disais aussi que bah, je les aurais peut-être pas rencontrés, ces gens-là. Et finalement, je pense même pas avoir gagné du temps parce que j'ai fini par dormir chez eux. Ça fait 2 semaines que je suis en Italie et tout se passe bien. Contrairement à en 2019, où j'avais eu une expérience un peu moins bonne en Italie. À la différence de ce voyage-là, j'étais pas tout seul. Pour Paris-Venise à pied, j'étais avec un ami à moi. Lorsqu'on marche à deux, on a tendance à moins s'ouvrir aux gens. Lorsqu'on est tout seul, finalement, on est amené à plus aller vers les gens. Parce qu'on a besoin des gens au quotidien. Donc tout se passe vraiment bien, je parle à énormément de personnes. À ce moment-là, je communique 10% italien, 20% français et 70% langage des signes. Voilà, j'essaye de pas utiliser mon téléphone. Généralement, quand je suis dans ce genre de voyage, à moins que j'ai besoin de quelque chose de très spécial, je vais sur Google Images et je montre une image. Mais sinon, j'essaye de pas utiliser mon téléphone, de me débrouiller. Et puis, ça me permet d'apprendre aussi la langue. Moi, ce que j'aime, c'est fonctionner en étapes. Et là, je me dis, la prochaine étape, ça va être de voir la mer. Parce que j'ai prévu pour la suite de l'aventure de longer la côte. Au jour 50, j'arrive vers la mer. Et pareil, nouvelle victoire, nouveau checkpoint. Ensuite, je continue de marcher jusqu'à la tour de Pise. Ça aussi, la première fois que je vois la tour de Pise. Mentalement, à ce moment-là, je me sens bien. Je fais une grosse partie du deuil. Mais l'amour que les gens m'envoient sur les réseaux sociaux m'a vraiment aidé. J'ai vraiment l'impression d'être dans une bulle. Pas qu'à travers les réseaux sociaux, mais dans ma vie en général. J'ai le sentiment d'être protégé. J'ai trouvé en Italie un peu le juste équilibre entre le fait de me sentir un peu plus seul face à moi-même, parce que fatalement, c'est un pays où ils parlent pas français, donc je suis moins suivi. Et le fait aussi de me retrouver aidé grâce aux gens qui sont derrière leur téléphone. Ma réalité par rapport aux réseaux sociaux, c'est que finalement, on décide d'en faire ce qu'on veut. Les gens qui disent que sur les réseaux sociaux, il n'y a que des insultes, ça peut être vrai. Les gens qui disent qu'il peut y avoir des bonnes choses et de l'entraide, c'est vrai aussi. C'est comme les commentaires finalement. Il y avait des commentaires un peu raciste, dans le sens « Ah, c'est bien, il rentre dans son pays. » Mais c'est moi, j'en fais ce que je veux. Il y a eu aussi des commentaires me disant que j'étais un voleur par rapport à la cagnotte. Ça me fait un petit peu plus mal, parce que je me dis que ça peut déjà empêcher les gens de participer à la cagnotte. et que moi, cette cagnotte, c'est un hommage à mon père, donc je peux prendre ça à cœur. Je peux décider de faire demi-tour parce que je me sens blessé, offensé. Je peux en faire une force. Quand je me suis mis à avoir énormément d'abonnés, donc il y a beaucoup de bienveillance, et du coup, la malveillance aussi, il y en a un petit peu plus. Mais globalement, ça représente, j'en parle jamais en réalité, mais ça représente 1%, un petit pourcent. Donc c'est à moi aussi de faire le choix, de donner du pouvoir à ces gens-là, ou de tout simplement me dire que ça n'a pas forcément d'importance. Le 65e jour de l'aventure, je trouve un super spot pour mettre ma tente. Pas très loin de la mer, je suis un petit peu en hauteur. J'allume un live et je partage ce spot magnifique. Donc je passe au montage de la tente, je me fais un petit thé en live, tout se passe super bien. Et je dis aux gens qui me suivent que je vais aller dormir. Et il commençait à avoir des gros nuages. Et j'ai même le souvenir que quelques jours avant, je sais plus pour quelle raison, je m'étais moqué des gens qui avaient peur des orages. Et là, il commençait à y avoir des nuages. La pluie, il commençait à y avoir beaucoup de pluie. La pluie s'infiltre même un peu sous ma tente parce que je suis sur un petit morceau de terre où finalement la terre s'imbibe d'eau. Je ressens l'humidité du haut de mon dos jusqu'à la pointe de mes chevilles. Et là, l'orage gronde. J'entends les orages gronder. Il y a même ce truc-là, on dit que chaque seconde représente un kilomètre. Sauf que là, dès que je voyais l'éclair, je l'entendais directement. Et je commence à avoir trop peur. Donc je prends une petite vidéo et bah, j'explique que je suis dans le mal, que je suis pas trop bien, que ça va être compliqué de dormir. Je passe la nuit sous ma tente, en boule. J'ai peur de me faire frapper par l'orage, bien qu'il y ait très peu de chance, mais c'est tellement impressionnant à ce moment-là que je me dis, c'est fou. La nuit passe. Fatalement, j'ai pas très bien dormi. Mais je prends mes affaires. Le lendemain, il fait très beau, donc je les fais sécher. Et c'est reparti. Je continue de marcher en direction de Rome. À ce moment-là, je suis impatient parce que Rome, ça représente 50% de l'aventure. Je suis à la fois rassuré et je me dis qu'il y a quand même pas mal de routes. Le plus gros reste à venir.
Je me suis moqué de pas mal de personnes qui avaient peur des orages. Je présente mes excuses publiques. Hier, j'ai cru que ça allait être la fin du film.
Environ au 70e jour de l'aventure, j'arrive à Rome et je suis trop content. Je dors chez des anciens voisins à moi, donc qui habitaient dans mon immeuble. Et c'est le moment de recharger les batteries, me laver, faire le tri dans mes affaires, parce qu'à ce moment-là, je laisse des petites affaires chez eux pour alléger mon sac à dos. Il commençait à devenir un petit peu trop lourd. Et bien sûr, visiter Rome. À ce moment-là, je suis à 2000 km. Et c'est vrai que je suis plutôt confiant sur la suite. Mais il y a ce mélange-là un peu de... Pas de peur, mais un petit peu toujours d'appréhension parce que le plus dur reste à venir. Il commence à faire très chaud. Je fais des journées de marche sous 35 degrés. Et je sais que plus je vais descendre, moins ça va s'arranger. Il va faire de plus en plus chaud. En Italie, c'est magnifique parce que très souvent à ma droite, il y a la côte, il y a la mer, magnifique. Les petits villages suspendus près de la côte ou sinon de la forêt généralement. Parfois il y avait des grandes routes, parfois il y avait des petits chemins. Je m'enfonce pour justement éviter les grandes routes. Je trouve un chemin de randonnée qui est parallèle à la grande route que je repère sur mon téléphone. Sauf qu'à ce moment-là, je vois pas la différence de hauteur entre les deux chemins. Donc je me retrouve à m'enfoncer dans ce chemin-là. Je déteste faire des demi-tours. Donc je sens que le chemin, il est pas bon, mais je décide de m'enfoncer de plus en plus. Je me retrouve plein de galères dans ce chemin-là. Très difficilement praticable. À ma droite, il y a la mer. Sauf que il y a aucune sécurité. Il suffit que je fasse un mauvais pas pour que je glisse et que je m'écrase contre les rochers à ma droite. Mais je continue le chemin. Et seconde étape, des pierres qui passent pas très loin de moi, donc des éboulements qui viennent de la gauche et les pierres qui viennent s'écraser contre l'eau à plusieurs reprises. À ce moment-là, je regrette le voyage. Honnêtement, à ce moment-là, je regrette le voyage. J'avais mes jambes qui tremblaient de peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai un peu la peur de ma vie et... Allez, en 5 secondes, j'arrive à me reprendre. Je me dis, c'est bon, tu peux le faire. Mais pour ça, il va falloir que tu laisses tes affaires derrière toi. Donc je retire mon sac à dos. Je laisse mon sac à dos avec mon téléphone, mes papiers. J'ai juste moi, mes vêtements, mon short, ma paire de baskets. Et ça me permet déjà d'être beaucoup plus léger. Donc je me mets à escalader et à prendre de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, j'arrive à observer un chemin qui se dégage. Je décide de refaire demi-tour, prendre mon sac à dos et emprunter un petit chemin que j'ai pu observer un peu plus haut. J'arrive à rejoindre la route. Tout ça, ça a duré environ une heure. Je me sens pas bien. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai sécrété beaucoup d'adrénaline. J'avais la bouche sèche, j'avais énormément soif. Et je continue ma route. C'était la veille de mon anniversaire. Et j'ai vraiment pris ça comme un cadeau, quoi, de pouvoir rester encore en vie. Je continue d'appeler ma mère tous les jours au téléphone et je sens dans sa voix qu'elle est de plus en plus fière de moi et elle voit le chemin petit à petit se dessiner de plus en plus, parce que c'est vrai que lorsqu'on s'est dit au revoir, Paris-Alger, ça représentait que des mots. Mais maintenant, ça représente de plus en plus une histoire, quoi. Surtout qu'elle est dans les coulisses de ce récit-là. Je lui raconte énormément de choses, tout ce qui se passe tous les jours. La prochaine grosse étape, c'est la Sicile. Donc, pour passer en Sicile, je sais que je dois prendre le petit bac qui ramène en Sicile 15 minutes, 20 minutes de bateau. Et je me dis, bon, enfin... Bientôt, je change de continent parce que je commençais un petit peu à m'impatienter. Ça faisait environ 75 jours que j'étais en Italie et je voyais plus trop le bout du tunnel. On est enfin le jour J, je passe en Tunisie. Il y a énormément de monde pour aller en Tunisie. C'est des bateaux énormément fréquentés, donc c'est des grands bateaux. J'ai un petit peu cette peur-là en moi à chaque fois. Que je passe des frontières ou je présente mes papiers pour aller d'un pays à l'autre. Donc, je sais pas, je me dis toujours, est-ce que ça va le faire ou pas? Ça me fait plus peur qu'une journée de marche, quoi. Mais tout se passe très, très bien. Et là, je monte dans le bateau et je suis prêt à arriver en Tunisie. J'arrive en Tunisie après 9 heures de bateau. Je sors du bateau. Et je me fais bloquer par la douane. Mes peurs sont confirmées. Je me fais bloquer environ 2h30 par la douane. Ils me posent énormément de questions. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que j'ai aucun hôtel où aller. Donc on prend un peu du temps avant de se comprendre et tout. Mais finalement, c'est passé. Et dès le premier jour, je suis attendu par un membre de l'association pour qu'on puisse organiser une distribution alimentaire. Parce qu'à ce moment-là, au niveau de la cagnotte, on a dépassé les 20 000 euros. Donc il y a eu la construction de 2 châteaux d'eau, un au Togo et un au Niger. Et là, on décide de financer une distribution alimentaire en Tunisie sur ma route pendant la marche. Donc je dors dans un hôtel à Tunis avec Mamadou de l'association Life ONG. Et ça me fait du bien parce que on était déjà en correspondance depuis quelques temps. Et... Là, je le vois enfin et il m'annonce aussi qu'il décide de marcher 3 jours avec moi. Jusqu'à Alger, il me reste 1000 km. J'ai fait en tout 3000 km. Il me reste 1000 km de Tunis approximativement jusqu'à Alger. Je me refais connaître à nouveau. En Tunisie, les gens parlent beaucoup français. Donc sur les réseaux sociaux, il y a des familles qui se lancent à ma recherche. Qui me ramène de quoi manger, comme au début de l'aventure, finalement, en France et en Suisse. Ça m'oppresse pas d'y Disons que c'est toujours fait avec énormément de bienveillance, mais c'est un peu plus tard que parfois ça devient un petit peu compliqué pour que je puisse trouver l'équilibre entre les réseaux sociaux, mon aventure à moi, qu'il faut que je vive, et prendre du temps pour les gens, parce que j'oublie pas qu'il y a des gens qui font de la route pour venir me voir et qui veulent passer un moment privilégié avec moi. C'est très dur de trouver la bonne balance entre tout ça. Ce que j'aime pendant la marche, c'est ce dégradé-là qu'on sent pas lorsqu'on est en voiture ou en avion, de décor et de paysage. Ça se fait beaucoup plus progressivement. Donc, le changement, il est pas tant brutal que ça au niveau du décor, parce que j'avais l'impression de me retrouver en quelque sorte un peu en Sicile lorsque je suis à Tunis. Il n'y a pas une énorme différence. Bien sûr, après, il y a la différence de la langue, des infrastructures. Je me sens bien, je me sens accompagné. Et ensuite, il faut que je rejoigne la frontière en Algérie. Sauf qu'à ce moment-là, je passe par les endroits les plus désertiques que j'ai rencontrés pendant toutes mes marches. Il fait très chaud, je rencontre personne pendant des heures. Et je marche dans des endroits où il fait vraiment très sec. Je rencontre les premiers chiens errants, donc qui marchent en troupeau. Ça me fait un petit peu flipper. Et j'arrive à me frayer un petit chemin à chaque fois. Et je marche comme ça, d'étape en étape, jusqu'à arriver à la frontière en Algérie. Il y a deux fois où j'ai vraiment très très soif. Mais heureusement que j'ai rencontré un monsieur qui était sur un âne, qui me demande très gentiment: est-ce que tu veux monter sur l'âne? Alors honnêtement, j'étais à deux doigts de craquer. Je me suis dit, est-ce qu'on peut dire que c'est de la triche? Mais non, je lui ai dit que je pouvais pas. J'ai dit par contre, si tu as de l'eau, je veux bien. Il avait une bouteille d'eau congelée. C'était le plus beau moment de ma vie. Et heureusement qu'il y avait ce genre de petite rencontre inopinée à des moments où j'avais vraiment très soif, qui m'ont permis de me ravitailler en eau. Le passage de la frontière en Algérie, c'est le moment le plus stressant de mon aventure. J'ai mal au ventre, donc j'arrive à pied à la frontière, ce que vraiment personne ne fait. Je suis le seul à venir à pied, donc on pose mille et une questions et j'arrive au moment des fouilles. Et je restresse à nouveau par contre. Le douanier me regarde, il me dit: t'es venu à pied de France, toi? Je lui dis oui. Il me dit: bon, allez, passe. Et voilà comment je fais mon premier pas en Algérie.
La frontière, elle est juste là.
Merci, les gars. Merci beaucoup. Merci, frère. Dans 26 jours, et je suis en Algérie.
L'Algérie vous souhaite la bienvenue.
Merci beaucoup. Merci pour l'accueil.
J'y croyais pas. Je me mets à pleurer de joie parce que c'est quand même... c'est une victoire, en vrai. À ce moment-là, c'est une victoire. Ce que je peux dire, c'est que j'ai marché de Paris jusqu'en Algérie à pied. À ce moment-là, il me reste 30 jours de marche. On me fait comprendre que je suis bien en Algérie parce qu'il y a des drapeaux partout dès le début. Dès que j'arrive en Algérie, je vois des drapeaux partout. Algérie, Algérie, Algérie. C'est aux fenêtres, aux lampadaires. Et donc, à chacun de mes pas, je me rappelle un peu plus que j'y suis, quoi. Je l'ai fait. La première étape, c'est la ville de Annaba. Annaba, donc tout à fait à l'est de l'Algérie. J'arrive là-bas et je suis content parce que c'est une grande ville que je vais pouvoir visiter. Donc, je m'y retrouve un peu plus dans cette ville-là. Et à Annaba, je suis un peu chamboulé parce que... j'apprends que mon grand-père, du côté de mon père, est enterré à Annaba. Chose que je savais pas, enfin parce qu'il est décédé à Alger. Donc mon grand-père, du côté maternel, celui que je vais voir, il est bien vivant, il est à Alger. Mais du côté de mon père, il est enterré à Annaba et je l'apprends là-bas. Et j'apprends que le cimetière est vraiment sur ma route. Donc c'est quelque chose que je décide de ne pas partager sur les réseaux sociaux, de ne pas en parler du tout. Et donc sur la route, je décide d'aller faire une petite visite à mon grand-père. À ce moment-là, je me dis que c'est fou de faire une marche de Paris à Alger à pied, en hommage à mon père qui est décédé et de, sur la route, aller voir le père de mon père pour tout lui raconter. C'était fort. Pendant environ 2 jours, je fais silence radio à Napa sur les réseaux sociaux parce que j'avais besoin de digérer tout ça. Une des choses que je préfère dans la marche, c'est prendre le temps. Et on aura toujours des choses à apprendre. Chaque kilomètre carré a une histoire finalement. Et en échangeant avec les gens d'un peu partout, on va beaucoup plus apprendre, que ce soit sur les traditions, les coutumes, l'histoire, même l'histoire que les gens ont à nous partager, leur propre histoire. C'est quelque chose qui nous fait grandir. Après la visite au cimetière à Annaba, je continue de marcher. Donc Annaba, Skikda, Jijel, Bejaïa. Je découvre l'Algérie. C'est vraiment un moment fort pour moi parce que c'est mon pays d'origine. Mes deux parents sont algériens. Et je me dis que j'ai, entre guillemets, une chance parce que je l'ai provoqué, j'ai marché quand même jusqu'à là-bas. J'ai une chance de pouvoir visiter le pays comme peu de personnes vont avoir l'occasion de le visiter dans leur vie. Voilà, j'ai traversé la moitié du pays quasiment à ce moment-là, la côte, la moitié de la côte. J'échange à propos de plein de choses. Je vois que je représente une fierté nationale parce qu'on parle de moi à la télévision. D'ailleurs, de l'autre côté, malheureusement, le secret que je devais garder, il est un peu dévoilé au grand jour parce que mon grand-père me voit à la télévision. Et il se dit, c'est mon petit-fils là qui marche de Paris jusqu'à Alger. Donc, ma mère, donc, que j'ai tous les jours au téléphone, me dit, écoute, papy, il est au courant que tu viens jusqu'à lui à pied. Par contre, je décide de ne pas entrer en contact avec mon grand-père jusqu'au jour où j'arrive devant sa porte. Je me dis que c'est pas très grave et qu'il y avait 2 options. Soit il est surpris et fier, soit il est fier tout court. Et le plus important, c'est qu'il soit fier. C'est pour la bonne cause, parce que l'objectif de base, c'était vraiment la construction du château d'eau et toute cette médiatisation, elle a permis une plus grosse somme collectée. Donc c'est que du bonheur. On est à 10 jours. Je suis épuisé physiquement et mentalement, mais je peux faire le parallèle avec une journée de marche classique. Pendant une journée de marche classique où je marche 40 km, les 30 km sont entre guillemets faciles et les 10 derniers sont vraiment durs parce qu'on sait mentalement qu'on arrive vers la fin. Et là, à l'échelle d'une grande marche comme Paris-Alger à pied, j'ai fait 90% du voyage et les 10% c'est les plus durs. Tout ça, j'en suis conscient. En partageant cette aventure sur les réseaux sociaux, je voulais partager tous les messages en lien avec la marche. Donc, que la bienveillance, elle est encore là. Que souvent, on parle de ces gens-là qui sont pas bienveillants. On parle d'effets divers parce que bon, ça peut faire vendre et tout. Ça crée de l'émotion chez le lecteur et tout. C'est la vérité, mais il y a beaucoup plus de gens bienveillants. Et encore heureux et heureusement. Et c'est un des messages vraiment que j'ai voulu faire passer. Ensuite, il y en a plein. Il y en a plein. Je sais que j'ai aussi aidé des gens qui ont perdu des membres de leur famille. J'ai en quelque sorte partagé le fait qu'il faut pas se laisser abattre dans la vie. Qu'on peut faire des forces nos souffrances. Ça aussi, c'est un message que j'ai véhiculé. J'ai véhiculé aussi le fait de prendre des risques dans la vie. Quand j'ai quitté mon emploi, beaucoup de personnes... Je pense que je suis pas comme monsieur tout le monde, mais si, je suis comme monsieur tout le monde. À la fin du mois, si t'as pas d'argent, c'est compliqué. Si t'as le frigo vide, c'est compliqué. On doit tous travailler. On est tous dans la même situation. Donc ça aussi, j'ai montré que prendre des risques, c'est important. Pour moi, la marche, c'est un peu l'école de la vie. J'ai grandi en marchant. L'aventure continue. Et de fil en aiguille, je suis plus qu'à un jour d'arriver chez mon grand-père. Sauf que je suis un petit peu chamboulé et que j'ai ce sentiment-là, paradoxalement, qu'il me manque quelque chose. Donc il y a une petite idée qui me trotte dans la tête, c'est de faire le retour à pied alors que je suis même pas arrivé chez mon grand-père. Et je me souviens, pour le dernier jour, j'étais dans un hôtel parce que j'avais besoin de rester seul et que, mine de rien, les gens savaient que j'allais arriver à Alger et que je me faisais arrêter toutes les 10 minutes. Donc ça devenait même compliqué pour moi de marcher et j'avais besoin de me retrouver seul pour faire de l'ordre un peu dans mes émotions. Pendant que j'étais chamboulé, je décide de faire le chemin retour à l'écrit. Donc je passe un petit peu la nuit à écrire le chemin retour et je m'endors en faisant le chemin retour juste avant de rejoindre mon grand-père.
Voilà, demain c'est le jour J. C'est la fin du voyage Paris-Alger à pied. Je sais même pas si je m'en rends compte ou pas. Je suis à un point où dans ma tête je suis tellement perdu que j'arrive même pas à savoir si je m'en rends compte ou pas. J'arrive même pas à me rendre compte d'où je suis. Mais ça fait plaisir. Voilà, après 157 jours de marche demain, je suis enfin arrivé à Alger, l'objectif final, après plus de 4000 km.
Donc j'ai mon itinéraire, environ 26 km. Le dernier jour, je voulais pas en faire beaucoup pour avoir le temps de partager l'arrivée en live, prendre du temps avec les gens parce que je savais que des gens allaient marcher avec moi. Il fait beau. Il y a Merwan, donc du Parisien, un journaliste qui m'avait rencontré à Besançon, qui décide de marcher avec moi les 20 km pour faire son sujet et aussi pour me voir parce que on était en contact tout le voyage aussi. C'est devenu un ami. Et beaucoup de chaînes de télévision m'ont demandé de participer à ce moment-là. Mais je voulais pas en faire non plus un moment trop médiatisé. Donc j'ai accepté que Le Parisien et Canal Algérie, donc la télévision nationale. Et je me suis retrouvé à faire les 26 derniers kilomètres, entouré des gens qui m'ont suivi tout au long de l'aventure. On était une quinzaine, il me semble. Et tous les gens qui m'ont arrêté aussi toute la journée, qui ont pris des photos, qui étaient très fiers de moi parce que je l'ai fait, quoi. Je suis à Alger à ce moment-là. Et j'ai le sentiment, je suis dans le même état d'esprit qu'au départ. Je suis dans le même état d'esprit. J'ai l'impression d'être en pilotage automatique, de voir toutes les choses avec de la distance. Je saurais pas trop expliquer, mais un peu comme si tout allait trop vite et que je contrôlais plus rien. Je demande de passer la dernière heure tout seul pour pouvoir marcher tranquillement. Je suis toujours à ce moment-là avec Merwan, qui me filme. On est juste tous les deux. Et Kalan Algérie nous attend sur place. Et là, j'arrive devant l'immeuble. Et je vois mon grand-père à la fenêtre, qui me fait qui me fait un petit signe avec la main, comme un enfant qui a fait une bêtise à qui on voulait donner la fessée. Et mon grand-père descend les escaliers. Je le retrouve et il me prend dans ses bras et...
Ça va ? Comment ça va ? Ça va ? Hein ? Non, Raph, t'as eu peur pour moi ? Non, ça va. C'est pour ça que je voulais rien dire.
La première chose qu'il me dit, c'est que je lui ai fait peur. Qu'il est très, très, très fier de moi. Que j'ai rendu fier beaucoup de personnes autour de moi et que même des gens qui me connaissent pas personnellement étaient fiers de moi. Et entendre ça à ce moment-là, de la bouche de mon grand-père, c'est ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté. Donc je me replonge quelques mois avant d'entreprendre ce voyage et je me dis que j'ai pris la bonne décision. Les émotions que j'ai pu vivre et que j'ai pu faire vivre, ça n'a pas de valeur en réalité. Il y a ma famille donc, qui sont dans la maison, qui m'attendent aussi. Les gens sur les réseaux sociaux s'attendaient à un truc un peu plus gros, où on voyait tout le monde, et ça me ressemble pas. Donc disons que en partageant même ce moment-là sur les réseaux sociaux, entre guillemets, j'ai joué le jeu, parce que ça me ressemble pas trop d'exposer ma famille sur les réseaux sociaux et de partager quand même des moments intimes. Mais à la fois, ça me faisait plaisir aussi de partager ce moment-là, parce que on était nombreux à vouloir le vivre. C'est comme ça que c'est fini le voyage de Paris à Alger à pied. J'ai un peu du mal avec la notion de deuil, mais je pense que ça a été une des façons de faire le deuil, pas de mon père, mais de toutes les émotions liées au décès. Avec la marche, bien avant que mon père soit décédé, je disais déjà que la marche me permettait de faire le deuil de mes émotions de l'année passée. Dans la vie de tout le monde, il peut se passer des événements ou des galères ou des moments difficiles. Et la marche me permettait de prendre du recul sur mon année entière et de voir si j'ai pris des mauvaises décisions, si j'ai eu des comportements déplacés. Toutes ces choses-là, je les passe en revue pendant la marche. Et donc, je savais un peu que la marche allait m'aider par rapport au décès de mon père. Mais je ne savais pas à quel point. Quoi qu'on veut entreprendre dans la vie, comme Paris-Alger, on doit faire déjà un pas, on doit faire ce premier pas. Ce premier pas, parfois, c'est le plus difficile. Et ensuite, il est important de diviser notre rêve ou notre objectif en étapes, à la manière d'une marche, jusqu'à l'arrivée. Parce que Paris-Alger, je ne l'ai pas fait en une fois. Le plus important, c'est que j'y suis arrivé, que j'ai divisé toutes ces choses-là en étapes, et qu'à la fin, toutes ces étapes réunies, ça fait un Paris-Alger à pied, ça devient un exploit. Alors que tous les jours, faire 30-40 km, c'est difficile, mais c'est faisable. Donc c'est pour ça que ouais, je dis que la marche est l'école de la vie.
À l'issue de son voyage, Mehdi Debra a récolté plus de 62 000 euros pour l'association Life ONG. Il est ensuite rentré chez lui à pied, en longeant la Méditerranée via le Maroc, le Portugal et l'Espagne, pour finir à Paris, dans le parc des Buttes-Chaumont. Un retour qui a été fêté par son immense communauté de fans. Son aventure Paris-Alger-Paris, à pied, aura duré 478 jours de marche pour un total de 10 000 km. Mehdi prépare actuellement d'autres aventures que vous pourrez découvrir sur son compte Instagram, @debraworld. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccard. La musique est composée par Nicolas Deferrand, avec une musique additionnelle de Michael Boga. Chloé Vibo s'est assurée du montage et Antoine Martin, du studio Crispy Records, du mixage.